L'air est doux, les bruits étouffés, les voisins cachés par des tuyas immenses, laissant le parc à l'abandon dans une demi-pénombre. Nos pas craquent dans les feuilles mortes. Je monte derrière lui les 6 marches de la terrasse que j'avais dévalée dans l'autre sens. Je retrouve le grincement de la porte frottant sur le dallage, le tintement des vitres opaques contre les barreaux de fer noir, et l'odeur, ce mélange d'humidité et de chauffage électrique. Les bruits de dilatation des radiateurs par-dessus le tic-tac de l'horloge. Un jeune en survette prépare du café à la cuisine. Rodney nous présente. « Pascal, mon ami parisien, le professeur Martin Harris. » On se salue, on se dit qu'on est enchanté. C'est l'homme qui m'a demandé du feu avant-hier devant le poste de police. « Un café, professeur ?»« Merci, oui, avec plaisir. » Vous l'aimez fort ? Oui. La radio diffuse le commentaire d'un match de tennis. Il en plaît une tasse, me la tend, m'explique que personnellement il le boit beaucoup plus allongé. Et si vous avez faim, je vous en prie, enchaîne-t-il avec un sourire cordial en désignant le petit déjeuner entamé sur la table. Excusez-moi un instant, dit Rodney Cole. Il ressort dans le couloir, ouvre la porte sous l'escalier. Je prends une biscotte et y étale du beurre en attendant le bruit de la chasse d'eau. Tandis qu'elle se déclenche, je m'approche de Pascal qui continue de remplir son filtre et, tout en m'exclamant que c'est bon de se sentir enfin dans un climat de confiance, je l'égorge. Sans cesser de parler, j'étouffe son cri, l'assied sur une chaise contre le mur, le cale avec la porte du frigo. Le commentateur salue un échange magnifique par-dessus les applaudissements du public. J'essuie le couteau, le glisse dans mon dos sous ma veste, reprends ma tasse et quitte la cuisine au moment où Rodney sort des toilettes. Je m'arrête sur le seuil. D'où il est, il ne peut pas voir le coin du réfrigérateur. L'air sous pression, le sourire en bataille, il m'invite à monter à l'étage pour me montrer le dossier qu'il a constitué. Je grimpe l'escalier derrière lui, ma tasse à la main, revois la façon dont je me suis enfui d'ici, 8 jours plus tôt. Ma course à travers le parc, dans les rues de Courbevoie, le taxi de Muriel qui traversait l'avenue, tous les détails s'assemblent avec une clarté minutieuse. Rodney Cole ouvre la porte d'une pièce meublée de carton, me désigne le gros hirsute assis à une table dans la fumée de son cigare. « Vous connaissez le docteur Netsky ?» Je dis non. Salue d'un signe de tête le transfuge qui a travaillé 3 semaines sur moi au centre de conditionnement. Sommité du KGB, il s'est vendu aux enchères en 1992. Pékin le voulait, Washington l'a eu. « Incroyable !» murmure-t-il en se levant. Il referme son veston boudiné, s'approche. L'autre sort un Mauser, appuie le silencieux sur ma tempe. Je me compose un air de stupeur. « Qu'est-ce qui vous prend, Rodney ?» Il ricane. Les quelques ratages de sa carrière ont toujours été liés à son ego. Mauvaise évaluation du potentiel de l'adversaire. Assieds-toi, Martine. Je vais te surprendre. Tu ne t'appelles pas Martine. Et moi, je m'appelle Ralph Channing. Ça ne te dit rien ? Je prends l'air tombé des nues pour qu'il savoure son petit effet. Il s'est toujours choisi des noms qui respectaient ses initiales. Où va se nicher l'orgueil ? D'une main brusque, il m'assied dans un fauteuil. « Doucement !» intervient Netsky. « Ça va, je vais pas l'abîmer, votre créature !» réplique Ralph en se posant à califourchon sur la chaise en face. « Allez-y, Doc !» Le canon distraitement pointé sur moi, il regarde le conditionneur poser son cigare et venir se plonger dans mes yeux, murmurer de sa voix lente « Vous allez vous détendre. Quand je dirai 4, vous serez totalement détendu. » 1. Vous relâchez vos pensées. Vous êtes en confiance. À 8, vous retrouverez l'état de veille que vous êtes en train de quitter. Je lui demande à quoi rime ce cirque. 2. Vous êtes pleinement vous-même et rien n'est un problème. Le seuil de votre conscience recule et se déplace avec ma voix. 3. Il continue à compter et je ne proteste plus. Le regard fixe et la bouche pendante, je me comporte en sujet hyper réceptif, comme il en a l'habitude. Vous êtes maintenant totalement détendu, plus aucune tension ne subsiste et, quand vous entendrez 7, je vous dirai qui vous êtes et vous me répondrez si c'est la vérité. 7. Vous êtes Martin Harris, botaniste, époux d'Elisabeth Lacarrière. Oui. J'ai parlé sans dérober mon regard, en le fixant au niveau des sourcils. Incroyable, répète Netsky. Probabilité qu'il simule ? Pourquoi le ferait-il ? S'il s'est enfui d'ici de peur qu'on l'élimine, pourquoi venir se remettre dans la gueule du loup ? Il s'est passé quoi alors ? S'énerve Ralph. Un effet secondaire du coma. La mémoire implantée en renfort s'est substituée à la sienne. Le russe claque ses doigts devant mon nez. 8. Il enfourne son cigare, me détaille avec fierté. Et si je vous disais, reprend-il au bout d'une minute sur un ton de jubilation gourmande, que vous êtes un personnage de fiction. Je me défends avec la même sincérité que j'ai eue pendant 3 jours, sauf que maintenant elle est crédible. Je la contrôle. Et je suis d'autant mieux placé pour vous le dire, poursuit-il, que cette fiction est de moi. Il t'a entré dans la tête un bouquin de jardinage, la brochure Disney et l'annuaire de Yale. Tu piges ? C'est un peu plus complexe, nuance le conditionneur. Je vous ai programmé votre identité de Martin Harris, votre biographie, les bases de votre caractère et un fichier de connaissances en botanique où puiser pour faire vrai. Steven Lutz, ça te dit quelque chose ? Je secoue la tête machinalement, sans autre réaction. C'est toi. Mon silence abasourdi lui déclenche un mouvement d'impatience. Ce qui me sidère, continue Netsky en sondant mon regard, c'est tout ce que votre esprit a construit à partir de mon schéma. La multitude de souvenirs que vous vous êtes inventés tout seul. Lorsque Sabrina m'a répété « Lise, ta femme », précise Ralph. En fait, Sabrina Wells, ta partenaire sur tous les contrats depuis 5 ans. Toujours rien ? Je demeure sans voix, l'air tétanisé, incrédule. La cicatrice sur son front, c'était un éclat de lunettes, le 2 octobre, quand j'ai fait sauter le crâne du sénateur Jackson depuis la fenêtre d'hôtel plongeant sur le panneau de la dette nationale. Pourquoi mon inconscient a-t-il à ce point maquillé cet incident ? Lorsque Sabrina m'a répété vos propos dans le métro, reprend Netsky, les détails intimes que je ne vous avais jamais programmés, les scènes entières que vous relatiez pour lui rappeler une vie conjugale qui n'a pas eu lieu, j'étais ébloui. Ébloui par la faculté qu'a le cerveau de développer tout un monde logique autour d'un corps étranger greffé dans la mémoire. Ça te rafraîchit les idées, marmonne Ralph. Je secoue encore la tête, comme si le choc me rendait incapable de proférer un son. « Je vais t'aider, vieux. Tu fais partie de la section 15. » Je répète le chiffre avec un froncement de sourcils. Mon chef de mission tourne un regard glacé vers le russe qui poursuit, de plus en plus exalté. « Une seule fois, j'ai eu cette impression d'être dépassé. À l'université de Leningrad, je pratiquais l'identification active. Je persuadais sous hypnose des étudiants en dessin, tout à fait moyen, qu'ils étaient Michel-Ange. » En transe, il dessinait à sa manière, mais j'ai découvert que le potentiel créateur qu'il développait ainsi continuait à s'amplifier en état de conscience normal. Résultat, il devenait de plus en plus talentueux, mais dans leur propre style. Qu'est-ce que c'est la section 15 ? Ta famille, Steve ? Un service tellement secret que même le président n'est pas au courant de son existence. Pour sa propre sécurité, pour qu'il ne puisse pas être impliqué dans notre sale besogne. Un comble, non ? Tu ne ris pas. Évidemment, tu ne peux pas mesurer l'ironie. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Ça court les rues, les chefs d'État assassinés par leurs services secrets. Cette fois, on accusera les anti-américains fanatisés qui pullulent en France, comme on a mis sur le dos de la mafia l'exécution du sénateur Jackson.
Ça veut dire, Steven, continue le russe, que l'habileté et la vision du monde qu'avaient acquis ces étudiants sous l'influence hypnotique d'un génie de la peinture, rejaillissaient sur leur propre personnalité en dehors des transes. Et c'est bien ce qui vous est arrivé, à un niveau que je n'aurais jamais pensé atteindre.
On s'en fout, coupe Ralph.
Vous peut-être. Je ne fabrique pas que des couvertures pour vos machines à tuer, moi. Je permets à l'individu de modifier totalement sa structure interne.
Allez prendre un café, Netsky. Il réplique qu'il n'a pas soif, qu'il veut absolument comprendre comment une simple adjonction de mémoire a pu fabriquer, sans autre suggestion extérieure, un être virtuel autonome et que, plop, il tombe en avant un trou dans le crâne. Font chier ces intellos. L'urgence n'est pas de comprendre, Steven, mais de nettoyer. Je me mets à trembler nerveusement d'une manière convaincante, tandis qu'il annonce le programme. La villa va brûler avec nos cadavres. Pascal s'occupera de ma copine taxi et tout sera en ordre pour demain. Allez, fais ta prière, vieux, si tu crois en Dieu dans ta petite tête de Martin Harris. Je glapis des pourquoi, tandis qu'il arme. Si tu savais le bol que tu as eu, Steven, et les problèmes que tu nous poses depuis qu'on t'a retiré de la mission.
Mais quelle mission ?
Il soupire, promène le silencieux sur les contours de mon visage. Tu te bousilles la main, on te planque ici le temps d'installer un autre tireur à ta place. Tu prends peur, tu te barres, on te rattrape avec le camion, on te fout dans la Seine. On te pense noyé, puis neutralisé dans le coma. Et voilà que tu débarques à l'appartement, en te croyant chez toi, que tu ameutes les voisins. Impossible de te liquider sur place. Tu vas chercher les flics, tu alertes l'ambassade, tu loues un détective pour enquêter sur toi. Tu essaies par tous les moyens de démasquer ton remplaçant. Évidemment, il était moins crédible que toi. Netsky n'avait eu que 6 jours.
Je lui demande d'une voix blanche quel était le but de tout ça.
Le but de quoi ? La fabrication d'un botaniste ? C'est toi qui as eu l'idée, en découvrant l'appartement à louer sur Internet. À cause de la fenêtre donnant sur la cour de l'Élysée, les renseignements généraux contrôlent l'identité des occupants. Il fallait plaire au propriétaire, en plus. On a joué sur le hasard merveilleux qui lui offrait comme locataire un confrère capable de prouver ses travaux.
Je secoue la tête, l'air groggy sur ma chaise, brisé par l'effondrement de ce que je croyais être ma vie. Je répète avec une obstination sourde que je suis Martin Harris. Ralph me contemple, écœuré. « C'est vraiment une saloperie, cette hypnose, » grogne-t-il en m'enfonçant le canon dans la bouche.